Bonjour à tous, bienvenue à Cinébrunch. Comme chaque semaine, vous êtes en compagnie de Jim Boulay, Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour, chers compagnons.
Bonjour.
Hello, hello.
Je ne sais pas si collègue aurait été plus approprié, mais bon. J'en profite pour dire à nos chers auditeurs qu'ils peuvent nous écouter en balado sur le site internet cinébrunch.com. Et si vous avez envie de réentendre nos pittoresques conversations ou si l'heure du brunch ne vous convient pas, cinébrunch.com. J'ai dit. Aujourd'hui à l'émission, on va vous parler de films d'animation. Chacun d'entre nous va vous présenter notre top 3 des meilleurs films d'animation non japonais. Pourquoi non japonais? Parce que le Japon mérite à elle seule une émission. D'autre part, Mélina, tu vas nous parler de la toute mini, mais ô combien excellente série Plan B.
Oui, exactement. La toute dernière série de Louis Morissette et mettant en vedette Magali Lépine Blondeau. Donc, je vous en parle plus tard.
Merveilleux. Et évidemment, on va présenter les sorties DVD, Blu-ray et cinéma. Toutes ces belles choses dans une demi-heure, mais avant d'en arriver là, quelques critiques. On a vu tous les trois le film Ligne interdite, Flatliners. Je vais vous faire une petite critique dans une vingtaine. Louis, la dernière fois, tu avais vu Assassin américain, et là, on reste en Amérique avec Tom Cruise.
Oui, cette fois-ci, on s'en va pour American Maid plutôt que American Assassin. Un film d'aventure où Tom Cruise est encore aussi sexy que d'habitude.
Bon, Mélina, tu t'es révoltée des films quétaines et t'es allée voir un film français, un vrai, avec du vin, pis tout, pis tout.
Exactement, je suis allée voir le film Retour en Bourgogne, donc du fameux Cédric Clapiche, donc je vous en parle bientôt.
Merci! Oh, mais attendez, quelle heure est-il? C'est l'heure de Cinébrunch! Louis, tu as vu Fabriqué en Amérique, Tom Cruise, depuis que Mélina nous a appris que ses dents n'étaient pas alignées avec son visage, trouves-tu qu'il a changé?
Non, parce que le charme de Tom Cruise a toujours été dans sa capacité de courir tout en ayant l'air aventurier. Ah. C'est les talents de course de Tom Cruise que j'admire. Mais il n'y a pas que Tom Cruise, il y a également Sarah Wright, Domhnall Gleeson, ainsi que Caleb Landry, qui sont tous présents dans ce film, dirigé par Doug Liman. C'est un film d'aventure où Tom Cruise se ramasse en Amérique du Sud pour y faire de la contrebande. Mais pour nous mettre dans le bain, on va aller pour un extrait de la bande-annonce.
Ici l'agence américaine de lutte anti-drogue. Atterrissez immédiatement.
Ok, les gars.
Mais qu'est-ce qu'il faut?
Je m'appelle Barry Seal. Presque tout ça, c'est du vécu.
Major de promo à la patrouille civile, vous méritez mieux que de piloter des bus.
Bienvenue à Miami. Bienvenue à Bakersfield.
Vous avez jamais eu envie de plus, Barry? Vous devriez servir votre pays.
Vous êtes de la CIA.
Il y a beaucoup de bruit de pow-pow. Ouais.
Oui, ben il faut comprendre, Mina, tu riais un peu lors du nom du personnage, Barry Seal, c'est que c'est basé sur une histoire vraie.
Ah,
en fait,
okay.
Tout ça est tiré... Si vous avez vu la série Narcos, on en parle aussi du même personnage. Dans le fond, Barry Seal est un type qui, depuis le début des années 80, est un pilote d'avion pour une petite compagnie intra-américaine, TWA, qui donc faisait des vols quand même plates et qui serait le meilleur pilote de sa génération, qui était adulé des foules et toute la patente et qui s'ennuyait à faire sa job et qui là se fait approcher par la CIA pour piloter un petit avion hyper rapide pour aller prendre des photos des camps de rébellion en Amérique centrale. Puis là, une chose en amène à une autre, il se ramasse à pas juste passer, à prendre des photos, mais aussi à passer de l'information, puis là peut-être à passer des guns, puis là peut-être à passer de la drogue.
Ça m'est familier, effectivement, comme concept.
Oui, ben tout ça est basé sur une histoire vraie. Je veux pas trop m'arrêter sur le pourquoi du comment de c'est une histoire vraie, parce que concrètement, j'ai pas lu plus qu'il faut sur l'histoire vraie. Tout ce que je sais, c'est que dans la vraie histoire, Barry Seal est vraiment moins sexy que Tom Cruise. D'ailleurs, quand on parle de la sexiness de Tom Cruise, on parle d'après une des deux seules choses qui font le film. Parce que entre Une histoire qui est décousue, qui est mélangée en des moments de temps réel où Tom Cruise se prend en vidéo dans une chambre d'hôtel miteuse et les scènes où ça se passe dans l'action. Mais des fois, il y a des coupures dans le temps de Tom Cruise tout seul, Tom Cruise avec d'autres pilotes, Tom Cruise avec des Sud-Américains. C'est jamais clair où est-ce qu'on est. Tout ce que je peux dire de bon avec ce film-là, c'est Sarah Wright, qui joue la femme de Tom Cruise, fait un jeu extraordinaire, on y croit. C'est vrai, seul personnage d'ailleurs. Donald Gleeson, qui pourtant est un bon acteur, qui joue ici l'agent de la CIA, qui sera un composite de plusieurs choses dans la vie réelle. Peu convaincant, a toujours l'air d'être en train de chercher ses prochaines lignes. C'est pas ça qui nous donne envie de continuer à écouter le film. C'est définitivement pas le réalisme de la chose qui nous donne envie d'écouter le film.
Ben non, Tom Cruise est dans le film.
Si seulement c'était ça le problème, mais non, c'est vraiment une question que pour chaque bon moment puis pour chaque bon beat que le film nous donne, il y a comme 3 scènes qui se doivent d'être plates puis qui se doivent d'être dans le bois puis pas vraiment là. Puis après ça, on a... C'est comme s'il avait essayé de faire la vie d'un homme de 20 ans de vie d'un homme dans un film de 2 heures sans prendre le temps de mettre en relief ce qui est vraiment important. Fait qu'on perd du temps vraiment massif avec des scènes de la vie quotidienne de Tom Cruise avec sa femme alors que le reste de l'histoire est passé super rapidement. Puis soudainement, il y a un nouvel avion qu'on n'a pas compris d'où il vient. Soudainement, il y a...
Okay, donc le rythme, ça marche juste pas, là.
C'est décousu au complet. Okay. On essaie d'en faire une espèce de truc sur comment est-ce que le gouvernement est tout le temps dans les ombres puis essaie de nous avoir avec ça. Mais c'est des beats qui ont déjà été travaillés. C'est vraiment quelque chose qu'on a déjà entendu. Tout ce que je peux dire, par contre, à la défense de ce film-là, c'est le directeur, Doug Liman, qui, apparemment, c'est un projet qu'il voulait faire depuis vraiment longtemps, parce que tout le film, dans le fond, se culmine avec l'affaire Iran-Contra, où, dans le fond, les États-Unis ont été accusés de passer de la drogue et de vendre de la cocaïne au beau milieu de la guerre contre la drogue pour financer des régimes qui défendaient leurs propres intérêts, entre autres en Iran et en Amérique centrale.
OK.
Le père du directeur était un des secrétaires conseil du Congrès lors de l'affaire Iran-Contra. Ça a donc été un des avocats qui a découvert et qui a posé des questions à plusieurs des gros noms de ces histoires-là. Donc, c'est une des raisons là, pourquoi est-ce que ce film-là a été fait de la manière dont il a été fait.
Okay.
Mais sinon, il n'y a rien donc, qui nous garde attachés. C'est, de ce que j'ai compris, c'est que ça tient pas tant que ça à ce que la réalité nous indique. Il y a des trucs qui seraient des théories qui sont pas nécessairement tenues par tout le monde. Les personnages sont pas crédibles. Quand le beau-frère arrive dans le portrait, on perd vraiment le fil du film parce que c'est un personnage qui est au-delà du stéréotype. C'est supposé être un type qui arrive du sud, qui est supposé être peu éduqué, mais il y a pas éduqué, puis...
Là, c'est du cliché, là.
C'est au-delà du cliché, là. C'est de l'archétype, carrément, du personnage. Puis ça n'a pas d'affaire dans un film qui aurait pu être intéressant autrement. Mais en même temps, Tom Cruise reste Tom Cruise et donc revient un peu à être juste Tom Cruise de Mission Impossible dans un film où il est supposé être un père de famille. D'ailleurs, il est supposé tout faire ça pour ses enfants. Ses enfants ont un total d'à peu près 2 lignes chaque.
Wow. Mais est-ce qu'on voit Tom Cruise cruiser des filles?
Badoum. Non, mais on le voit filmer sa femme en bikini.
Ça compte.
Ouais. Donc, au total, un 4.5 Ouh. Sur 10.
Wow, ça passe pas.
Parce que... 5.5. On va le faire passer au moins dans le système, dans le système américain.
Ça passe pas plus, là?
5.5, ça passe dans le système américain. Parce que il y a 2-3 scènes intéressantes, parce qu'il y a une volonté qui est là, mais c'est des beats au niveau de des images qui ont déjà été faites, du concept qui a déjà été fait, puis des personnages qui sont au-delà de l'archétype.
Eh bien, on va aller le voir.
Ou pas.
Mélina, c'est le temps des vendanges quelque part dans le monde. Tu as vu un film plein de raisins et un peu de tanins.
Exactement. J'ai vu le film Retour en Bourgogne du réalisateur Cédric Clapiche, qu'on connaît entre autres pour L'Auberge espagnole, et qui met en vedette Pio Marmaille, qu'on a connu dans Le premier jour du reste de ta vie, Anna Girardot et François Civil. Donc, c'est un film français qui se déroule dans le vignoble familial en Bourgogne. On suit donc deux frères et une sœur qui s'occupent de ce domaine-là. Alors, à l'approche de la mort de leur père, Jean retourne dans sa famille et retrouve son frère Jérémy et sa sœur Juliette après une absence de plus de 10 ans. Donc, avant d'en dire plus, on va écouter la bande-annonce.
Quand j'étais petit, tous les matins, je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins, ça change. Mais plus tard, j'ai compris qu'ici, rien ne changeait jamais. J'ai eu envie de faire le tour du monde. Et j'ai fait le tour du monde. Parfois, je me dis que je suis plus parti pour fuir.
Tu voulais fuir quoi ?
Mes racines, quoi.
C'est un peu spécial pour nous trois cette année parce que nous trois, on vient de perdre notre papa.
On venait de se rendre compte qu'en plus de la perte de notre père, on avait encore beaucoup à perdre.
Tu vas vouloir vendre tes parts de l'héritage, c'est ça ?
Je me vois pas vivre ici.
Ça te fait ni chaud ni froid de savoir que tu vas vendre l'endroit où on a grandi, où la terre, le vin, tout le travail de papa et maman ?
C'est bon, bref, ça c'est ma vie, ça c'est pas tes zones.
Ah bah si, Jean. En fait, tu parles aussi de ma vie, là.
Eh bien.
Oui, donc le personnage principal qu'on entend, qui est narrateur dans la bande-annonce, c'est Jean, donc, qui revient s'installer dans le vignoble avec sa famille, parce que son père va bientôt mourir. Il décède assez rapidement dans le début du film. Oui. Et donc, les trois enfants reçoivent le vignoble en héritage, mais pour le conserver, ils doivent payer des frais de succession qui s'élèvent quand même à 500 000 $.
Euros, j'imagine?
Euros, oui,
ça donne
probablement.
Des euros.
Oui.
Je sais pas.
Ce qui est quand même une grande somme, on s'entend. Puis, le père a spécifié dans son testament qu'il veut que ses trois enfants prennent la décision ensemble quant à garder ou vendre le vignoble. Donc, ils doivent les trois se mettre d'accord. Donc, Jean, il revient s'installer avec son frère et sa sœur. On apprend que lui, durant son absence de 10 ans, il s'est acheté un vignoble en Australie, qui a une femme et un petit garçon de 5 ans. Et donc, c'est ça, il retrouve son frère Jérémy, apprend que son frère s'est marié, que son frère, il y a un petit bébé qui vit sur le chez son beau-père dans le vignoble. Et ben, sa sœur est dans la maison familiale, puis c'est surtout elle qui prend les décisions quant au vignoble. Donc, on va les suivre durant un an, pendant tout le processus d'une cuvée, de la fabrication vraiment jusqu'au moment de la dégustation, parce que durant tout ce temps-là, ils ne seront pas capables, les trois, de se mettre d'accord ensemble sur la décision à prendre quant au domaine familial.
Ils vendent-tu, ils vendent pas? Ouais,
exactement.
Ça.
Jean, le personnage principal, en fait, lui, il voudrait vraiment vendre puis retourner en Australie parce que sa femme et son fils sont là-bas. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de rancune envers son père, puis c'est surtout pour ça qu'il était parti faire le tour du monde. Donc, c'est un peu ça la prémisse, je vous dirais, de l'histoire. C'est un film qui explore vraiment le thème de la famille, puis aussi de l'entreprise qui se transmet de génération en génération. On voit beaucoup de retours en arrière, on voit les trois frères et sœurs quand ils étaient enfants. Et ça l'aide vraiment beaucoup, c'est une histoire, le scénario, qui a un scénario très riche dans le sens qu'on comprend bien le backstory des personnages, c'est super bien développé, le contexte, tout ça. Puis c'est vraiment crédible comme film.
Fait que c'est un film, dans le fond, à la hauteur d'une famille. Là. C'est un retour à la terre, c'est une espèce de...
Exactement.
Continuité de...
Okay. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis il y a aussi les difficultés qu'ils vivent par rapport à ça parce que c'est pas nécessairement leur choix à eux non plus de faire ça, tu sais. Puis, c'est vraiment un beau film, je vous dirais. La Bourgogne, je suis personnellement jamais allée, mais j'ai eu envie de m'acheter un billet d'avion direct en sortant du cinéma. Là.
Ah
c'est,
oui,
tant
que ça.
C'est vraiment beau.
On aurait peut-être attendre les vendanges l'année prochaine. Par contre,
ça t'a aussi donné envie de te couler un petit verre de vino?
Aussi, ouais, aussi. Okay. C'est sûr que c'est axé sur le vin, ça donne envie de boire du vin. Le vin, il a l'air bon. Mais c'est surtout beau, je vous dirais. Ça respire comme film. On voit des paysages avec la musique. Ça donne vraiment envie d'être zen, de faire du yoga ou quelque chose comme ça.
Est-ce qu'on a trouvé la pastille SAQ pour le film? Tant qu'à parler de vin comme ça, moi, je suis quand même curieux.
C'est une bonne question.
Délicat et léger, fruité et léger, peut-être aromatique et charnu.
Moi, je vote pour aromatique et charnu.
Aromatique et charnu.
Ouais, j'ai vu le film aussi.
Sérieusement, aromatique et charnu?
Oui, parce que côté familial est assez charnu, alors que aromatique, c'est plus le parfum des prairies.
Mm.
Donc, enfin, voilà.
Oui, c'est beau. Tu vois, moi, je serais plus allée avec quelque chose de délicat et léger parce que, bon, c'est sûr que c'est un film français, c'est très loin de ce qu'on connaît comme films québécois qui sont super dramatiques, là. C'est dramatique, mais c'est pas tant dramatique. C'est plus... Moi, c'est un film qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a vraiment... Ça m'a calmé, ça m'a détendu. Je trouvais ça beau.
C'est un film tout dans les pastels, finalement.
Exactement.
Ah, comme c'est bien dit.
Puis c'est très bien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était super bien réalisé. Le scénario est fort. Les acteurs sont super bons, sont super crédibles. Donc, pour ce film-là, moi, je donnerais une note de 8 sur 10.
Hmm.
Peut-être 8,5 si j'ai quelques verres de vin dans le nez.
et une pastille délicat et léger.
Exactement.
Ben, voilà. Merci, Mélina.
Merci.
À minuit, au sous-sol, niveau C.
Alors, on fait quoi?
Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses une minute, et ensuite tu me ramènes.
Ok. Et là, c'est le moment où tu me dis que c'est une blague.
C'était si bien que ça. Y a rien qui t'a perturbé. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle.
Peut-être qu'on a ouvert une porte.
C'est beau, les traductions, hein?
Oui, la belle bande-annonce pour avoir vu le film en anglais, ça sonne pas du tout pareil.
Là, avant que Jim commence, nous sommes les trois à avoir vu le film et j'ai pas encore entendu la critique de Jim, mais je suis prêt à mettre de l'argent que je me dissocie de sa critique.
Ah, je pense
et
pas?
Moi, je donne un solide 1,5 sur 10,
oh,
juste
oui,
pour qu'on soit clair.
Effectivement.
Ah oui, moi j'irais quand même un peu plus haut, mais bon, on va écouter Jim là-dessus.
Bon, laissez-moi donc parler, là. Donc, vous venez d'entendre la bande-annonce du film « Ligne interdite », en anglais « Flatliners ». À mon avis, le titre français est très mal choisi parce que, bon, « Flatliners », j'ai pas trouvé de traduction fonctionnelle, mais ça fait référence à, vous savez, l'espèce de ligne plate
le
quand quelqu'un
rythme,
meurt à l'hôpital,
ouais,
là, qui est branché sur un appareil là, qui calcule le pouls. Et voilà, bref. Donc, « Flatliners », c'est un film du réalisateur danois Niels Arden Oplev, je ne renommerai pas ce nom durant le critique. Alors, désolé pour la prononciation. Je me demandais si ce gars-là avait fait autre chose et j'ai vu qu'il avait réalisé le film Millennium de Stieg Larsson en 2009.
Ah.
Donc, quand même. Le premier seulement, par contre. Et pas la version avec Daniel Craig. Donc, pour revenir à Flatliners ou Ligne interdite, cette version-là est un remake d'un film de 1990 qui porte le même nom, mais réalisé cette fois-là par Joel Schumacher qui avait fait quelques Batman et d'autres films comme ça, House of Cards. Le film de 2017, donc, pour lequel je vais faire une critique, met en vedette Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, Kiersey Clemons, James Norton et Kiefer Sutherland, donc Jack Bauer dans 24 heures chrono. Sutherland qui était aussi dans la version de 1990 comme premier rôle, mais dans la version de 2017, il y a un rôle secondaire d'enseignant. Autre similarité entre les deux films, Kevin Bacon, vous savez le monsieur qui a davantage un nez pointu qu'un nez de cochon là, Bacon, cochon, non? Okay.
Mais lui, il a fait des films de danse en fait.
Oui, ben justement, mais dans le film, je crois l'avoir, ben, en fait, il y avait un rôle important dans la version de 1990, mais je crois l'avoir reconnu comme étant le pianiste dans le film de 2017 à la fin du
oui.
film là.
Oui, oui, oui.
Alors,
oui,
je suis pas sûr que c'est lui. Bon, enfin. L'histoire, on pourrait dire que c'est une espèce de mélange de films d'ado et de Destination Ultime. Là, vous savez, la série de films où les gens sont pourchassés par la mort puis que ça finit jamais. Donc, Flatliners, c'est une histoire qui tourne autour d'un groupe d'étudiants en médecine d'université prestigieuse. Le film ouvre avec un flashback d'un accident de voiture causé par Courtney Holmes, qui est interprété par Ellen Page. Et elle utilise son cellulaire au volant.
Si je peux arrêter de dire, le seul côté positif de tout le film, la présence d'Ellen Page.
Selon Louis. Et donc, de retour dans le présent, on découvre le personnage de Courtney, qui est une étudiante en médecine, qui semble avoir une certaine fascination pour la mort, ou en tout cas plutôt ce qui se passe après. Et elle va convaincre certains de ses collègues de la rejoindre dans le sous-sol de l'hôpital où elle travaille. On découvre que dans le sous-sol, il y a de l'équipement médical de pointe, comme un IRM, des choses comme ça. Ils sont recouverts de draps et c'est supposément fonctionnel en cas où il y aurait une catastrophe, quelque chose comme ça. Déjà, ça, c'est un peu bizarre. Là. Ça a l'air un petit peu trop bien fonctionnel pour du backup equipment. bon, de l'équipement de sauvegarde, de rechange, de l'équipement de, comment tu dirais ça?
De dernier recours.
Ouais, l'équipement de dernier recours.
C'est vrai que c'est un peu moins crédible, cette partie-là, parce que cet équipement-là a dû coûter très cher.
C'est un IRM, ça coûte des...
Pas juste ça, c'est un IRM fonctionnel dans une pièce où il y a de l'équipement apparemment à l'infini. Là, ils utilisent beaucoup de trucs jetables, qui est toujours disponible, qui est toujours présent, qui est jamais remarqué par les autorités, jamais remarqué par le staff de l'hôpital que c'est manquant.
Oui, non, ça passerait pas ça dans Grey's Anatomy.
1.5.
Il y a des incongruités, bon, je vous le cacherai pas. Donc, voilà. Ils sont dans le sous-sol. Ben, elle est dans le sous-sol. Sa meilleure amie arrive et comprend pas ce qui se passe. Son autre collègue, un peu douchebag, qui pensait que c'était une petite rencontre sexuelle qu'elle allait avoir. Bon, le trio est réuni. Courtney leur annonce qu'en fait, elle veut faire une expérience sur la mort et elle leur demande d'arrêter son cœur à elle-même pour la tuer et ensuite la réanimer après quelques minutes. Pendant ce temps-là, elle voudrait qu'ils enregistrent l'activité cérébrale avec l'IRM. Et là, évidemment, ses collègues veulent absolument pas, mais... Quelques minutes après, soudainement, le monsieur douchebag finit par accepter de la tuer. Déjà, ça c'est une énorme lacune selon moi. Il aurait vraiment dû avoir beaucoup plus d'hésitation. Là, c'est comme ça a juste aucun sens. T'es en médecine, tu peux perdre ton statut, tu peux perdre ta carrière, tu peux aller en prison parce que en tout cas, cette affaire-là est un peu à la va-vite. Pendant qu'elle est morte, on voit Courtney vivre un espèce de trip pas mal cool, comme un rêve, un voyage astral ou un trip de LSD, là, je sais pas trop. Et après l'expérience, le groupe de 3 est devenu un groupe de 5. On voit Courtney avoir un changement sur ses capacités cérébrales et les autres trouvent ça pas mal intéressant. C'est d'ailleurs là que d'autres vont se prêter à l'expérience et se faire réanimer de la même manière. Donc, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'on aurait pu développer beaucoup plus sur ce concept-là de capacité cérébrale qui aurait pu être augmentée par l'expérience, des choses comme ça. Mais on veut comme nous faire croire que l'histoire est construite sur une sorte de base scientifique. On met beaucoup l'accent sur l'importance de l'imagerie, des enregistrements qu'ils font pendant l'expérience, que c'est important, oublie pas d'enregistrer, bon, des choses comme ça. Puis on se rend compte que l'analyse la plus poussée qu'ils vont faire avec les enregistrements, c'est une observation à l'œil nu de quelques éclairs à différentes parties du cerveau. Là.
Dès que la première partie, dès que le premier acte finit, qu'on rentre dans le deuxième acte qui est plus horreur, il y a plusieurs morceaux d'histoire comme ça qui disparaissent sans raison parce que le réalisateur perd intérêt dans ses propres gadgets.
Quand on a l'occasion de pousser plus loin le théorique, on nous met plutôt sur des scènes de party, d'alcool bien arrosé, de folie de jeunesse, on défonce des murs, on conduit dangereusement, bref, un film d'ado. Les étudiants en médecine ont peut-être la réputation d'être intenses dans les moments de party et on veut vraiment nous le montrer, on dirait, dans ça, et c'est probablement ce qu'il y a de plus crédible dans le film, tristement. On comprend que ça devient une histoire de culpabilité. On nous fait comprendre petit à petit que, en plus de Courtney qui s'en veut pour l'accident qui a tué sa petite sœur, chacun dans le groupe a comme quelque chose qui s'est passé dans son passé qu'il gruge à l'intérieur et par des hallucinations que je dois admettre sont quand même assez bien faites et qui réussissent à faire sauter même les plus calmes. On comprend que ces hallucinations-là, c'est comme un peu la vengeance de ceux pour qui les jeunes ressentent de la culpabilité. La science n'a absolument plus d'importance. Les capacités incroyables que procurait l'expérience mentale, on n'en entend plus parler du tout. Et comme de tout, on n'explique surtout pas pourquoi ça fait ça. Et c'est ça qui est vraiment le gros problème dans le film. Parce que pourquoi ça arrive à eux et pas à tout le monde qui se font réanimer à chaque jour depuis 40 ans? En quoi le fait de filmer, d'enregistrer ou de scanner avec des appareils électroniques durant la mort donne une mystérieuse force et un pouvoir de vengeance à l'inexistence. En tout cas, je donne 5 sur 10 à ce film-là parce que c'est quand même un bon divertissement malgré tout. Le débit est quand même bon. Les scènes d'horreur sont plutôt bien faites malgré que c'est pas du tout mon genre de film. Mais Louis et Milena ont vu le film avec moi et je sais pas si vous avez des choses à rajouter.
En tant que fan de science-fiction, en tant qu'amateur d'horreur à l'occasion, je donne un retentissant 1.5 à ce film-là. C'est pas crédible, les enjeux sont pas présents. Puis que je vais pas faire de divulgateur, mais il y a bien des affaires qui durent pas assez longtemps dans ce film-là.
Moi, je dirais un peu, ben, comme vous l'avez dit, je pense que c'est un film qui cherche. Ils ont voulu donner dans trop de styles différents. Donc, finalement, ça donne un gros ramassis de n'importe quoi qui fait pas vraiment de sens.
Louis, tout à l'heure, t'as dit que t'étais un amateur de films d'horreur.
Ça m'arrive à l'occasion.
Ça t'arrive à l'occasion. Et Mina, je sais pas, est-ce que t'aimes les films d'horreur?
Je suis pas vraiment une fan de films d'horreur.
Moi non plus. Mais connaissez-vous les 31 jours de l'horreur?
Non, pas du tout.
Je connais les 31 jours de Noël.
Rien à voir. Mais, mais presque, presque. Enfin, c'est un mouvement social qui se passe à tous les mois d'octobre à chaque année. Et on est en plein dedans en ce moment, d'ailleurs. C'est accessible à tout le monde. Pas besoin de payer, de sortir, de faire quoi que ce soit. Vicky Langlois est copropriétaire de la capsule sur la rue Wellington Sud et elle nous explique c'est quoi les 31 jours de l'horreur et comment ça marche. Vicky Langlois, bonjour.
Allô!
Vicky, tu veux nous parler d'un événement qui, j'imagine, se déroule chaque année, le mois de l'Halloween, et ça s'appelle les 31 jours de l'horreur, c'est ça?
Oui, les 31 jours de l'horreur qui commence le 1er octobre et qui se finit avec l'Halloween le 31 octobre. Phénomène qui, je te dirais, a pris de l'ampleur avec Internet énormément. Je peux te dire que depuis 2013-2014, ça devient quelque chose de plus en plus gros et quelque chose d'assez constant et récurrent. En fait, c'est simple, c'est tu te fais une liste. Généralement, les gens se font une liste. Il y a plusieurs manières de le faire, mais vraiment, tu écoutes un film d'horreur par jour à tous les jours du 1er au 31 octobre et tu partages ton choix de film d'horreur sur Facebook dans les multiples groupes qu'il y a de fans d'horreur. C'est vraiment l'idée de partager un film d'horreur à tous les jours. C'est vraiment la célébration de l'horreur dans tous ses coutures.
C'est quoi ton film aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'était Eaten Alive, un film de Tobe Hooper sur les crocodiles.
Et de quelle façon la capsule contribue à ce phénomène-là?
Il va y avoir un film d'horreur à tous les jours dans la semaine du 22 octobre.
Donc, jusqu'à l'Halloween.
Jusqu'à l'Halloween. Mais aussi, la capsule a une ambiance très de proximité. Fait que les gens ont fini par me suivre sur Facebook ou je les redirige parfois sur le podcast d'horreur auquel je participe en tant que panéliste. Ça s'appelle Horror Gamer. Et à tous les jours, nous, on y va par thème. Fait qu'on n'impose pas un film, on propose un genre.
Alors, amateurs d'horreur, rendez-vous sur Facebook pour vous inspirer. Mais là, c'est plus les 24 jours de l'horreur que les 31 jours de l'horreur. On a un petit peu passé tout droit. On aurait dû en parler avant. De retour à l'émission Cinébrunch pour cette deuxième demi-heure. On aura la chance d'entendre Mélina nous parler de la fantastique série Plan B. Mais juste avant, c'est le moment de notre top 3.
C'est le moment du top 3.
C'est le moment du top 3 et pour cette semaine, on a choisi le thème des films d'animation, excluant les dessins animés japonais. On regarde ça pour une autre fois. Donc, cette semaine, à tour de rôle, on vous présente chacun nos trois films d'animation favoris. D'abord, Louis.
Allô! Ben moi, en fait, je suis assez classique et un peu nationaliste, en sens que mon premier film, mon film d'animation favori, c'est Shrek 1 avec l'acteur canadien Mike Myers à la voix de Shrek. C'est un film qui m'a fait rire à pas savoir quoi en faire.
Ah oui, tant que ça?
Oh oui, j'ai vraiment adoré le premier Shrek. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis on a quelque chose d'intéressant parce que même les jeunes et les moins jeunes peuvent trouver leur compte. Il y a des blagues qui sont vraiment orientées pour tous les âges, puis il y a des blagues qui sont spécifiquement, que ce soit de nature politique ou de nature un peu
salace. Il y a plusieurs niveaux, là, c'est ça.
Il y a vraiment beaucoup de niveaux. C'est vraiment intéressant. C'est différent de ce qu'on voit habituellement. C'est un retournement des classiques, des histoires de princesses. Mon deuxième, c'est Les Indestructibles,
Indestructibles, c'est ça?
Incredibles.
The Incredibles.
The Incredibles. Film de super-héros qui présente une famille qui doivent se cacher de leur pouvoir secret, de leur pouvoir... de leur super pouvoir à cause du gouvernement. Le père en est très triste, on voit une crise d'adolescence de la jeune fille, on voit un jeune garçon qui essaie de trouver sa place à ce niveau-là, on voit l'espèce de triomphe de la technologie, il y a des scènes extraordinaires, il y a des moments qui se citent très bien. Non, on ne porte pas de cap. Et autres trucs du genre. Donc, Les Indestructibles, quelque chose que je recommande très fortement. Mais le film qui va peut-être me faire... Qui va faire scandale, qui va vraiment faire différent.
Ça, c'est ton top 1, là.
Oui. Mon dernier, là, c'est Party de saucisse. Sausage Party. Réalisé par Seth Rogen, où Seth Rogen joue également.
J'ai vu que la bande-annonce.
Dans une épicerie, découvre qu'ils vont aller à la mort une fois sortis de l'épicerie et font tout en leur pouvoir pour s'en sortir et reprendre le contrôle de l'épicerie. C'est vulgaire, c'est irrévérencieux, c'est absolument délicieux à écouter. Ça prend des Doritos en quantité industrielle, mais ça vaut la peine. Et je le recommande fortement.
Ce n'est pas un film pour enfants, cela dit.
C'est un film pour enfants de plus de 16 ans. Je vais dire ça voilà. comme ça. Okay, okay. C'est vraiment fait. C'est abruti à l'occasion. C'est un... Mais ça vaut vraiment la peine.
Excellent. Merci, Louis. Et Mélina, de ton côté, ton top 3 des meilleurs films d'animation.
Oui. Alors, mon top 3, en fait, ça a été assez. Ça m'a brisé le cœur un peu de faire ça parce que tout le monde sait que j'ai une passion pour le film Les Aristochats qui a été fait en 1970, donc ça fait déjà 47 ans, mais j'ai pas pu le sélectionner dans mon top 3, mais je voulais quand même glisser un mot sur les Aristochats. Donc la musique, les couleurs, voilà, c'est dit, on peut passer au top 3, le vrai top 3.
Go! Je suis un peu fâché parce que les Aristochats, c'est vraiment bon.
C'est vraiment bon, les Aristochats, mais bon.
Non, non, Jim.
Mais quoi?
Vas-y, Mélina, quels sont ton top 3?
Mon top 3, alors, en troisième position, je commence avec le film Monster Inc., qui a été fait en 2001, donc je crois que tout le monde a vu ce film.
Non. Moi, je n'ai pas vu Monster Inc.
Moi non plus. Et je sais que c'est un sacrilège, mais bon.
Sérieusement, c'est vraiment excellent comme film. Je vous dirai pas la fin puisque vous l'avez pas vu, mais je peux juste vous dire que c'est franchement très excellent. C'est super bien fait. Donc, le film Monster Inc. qui a été réalisé par la même personne qui a réalisé le film qui est en première position de mon top 3, mais je vous garde la surprise pour plus tard.
Ah.
Donc, cette personne est Peter Docter. Donc, en deuxième position, j'y vais avec le film Zootopia. Donc, si on se souvient bien, l'histoire de la lapine policière,
oui.
C'est très cute et c'est aussi excellent. Et ce film a gagné l'Oscar en 2017 du meilleur film d'animation. Donc, j'ai vraiment adoré ce film.
Ah, c'était bon, ça.
Je le reverrai encore.
Oui. Surtout quand il compte la blague, puis là, je sais pas trop quelle sorte d'animal, il est super lent.
Oui,
là,
ça,
c'est vraiment
oui,
trop bon,
oui.
ça. Oui.
Et en première position, roulement de tambour, le film que j'ai choisi, c'est le film Inside Out, alors Sans Dessus Dessous, qui est sorti en 2015, qui a gagné en 2016 l'Oscar du meilleur film d'animation. Pourquoi ce film-là, c'est selon moi mon top 1? Parce que... ça vulgarise des concepts psychologiques pour les enfants. Ça a même, il y a même deux psychologues de renom qui ont participé à la création du scénario de ce film-là. Ils ont choisi de focusser sur cinq émotions principales et on rentre dans la tête de la petite fille où il y a cinq bonhommes qui sont en fait ces émotions-là et on les voit interagir entre eux.
Ouais, c'est ça, c'est comme des personnages qui jouent le rôle des émotions.
Exactement,
dans le
exactement.
Ouais,
c'est,
ah, c'est bon ça.
C'est vraiment excellent. Et aussi, on voit quand ils se promènent dans le cerveau humain, ils vont chercher les mémoires, les mémoires à long terme. C'est vraiment ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande fortement de le voir et aussi de le voir avec des jeunes enfants aussi. Parfois, je pense que ça peut aussi vraiment... Il y a vraiment une valeur éducative, pas juste pour les enfants, aussi pour les adultes.
Oui.
Dans ce film-là, c'est franchement...
Un film intelligent, Inside Out, oui.
Vraiment très intelligent, voilà. Alors, c'est ça.
Merveilleux, et c'est mon tour de mon côté, mais mon top 3 des meilleurs films d'animation, évidemment non japonais parce que ce sera le sujet d'un tout autre d'une toute autre rencontre. En troisième position, Trouver Nemo.
Ah oui.
Ah ouais.
Ah, je voyais dans ton regard, Louis, que tu dans ton regard désapprobateur, que tu me jugerais. Ben c'est ça. Alors, écoute, Louis, malgré ce que tu peux penser, moi j'ai découvert ce film-là vraiment tard dans ma vie. J'avais dans la vingtaine, et mais ça m'a grandement ému, ce film-là. Ah, donc, à mon avis, c'est un peu la continuité du Roi Lion, mais plus moderne. Et,
wow, ça n'a pas la profondeur que le Roi Lion va jamais avoir.
Ben,
mon
écoute,
Dieu!
Le thème de la mort et tout ça est très fort dans le Roi Lion, je suis d'accord avec toi, mais le Roi Lion, j'ai un petit peu de misère, je trouve qu'il est un peu mal vieilli, tandis que Nemo, personnellement, je trouve que c'est le si j'avais un Disney à recommander, ce serait celui-là.
Ça va finir en combat en arrière de la station, cette histoire-là.
Probablement.
Là. Toi, moi, un canif, puis...
un poisson clown. Donc,
deux chats.
Non, mais le Roi Lion, quand même, le Roi Lion, ça a donné lieu à des répliques aujourd'hui qui sont encore dans l'histoire.
Hakuna Matata.
Exactement, c'est à ça que je faisais référence.
Tout ce qui est touché par le soleil t'appartiendra, mon fils. Mon Dieu, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, Jim?
Je suis désolé, mais c'est Nemo quand même qui entre pour moi. L'histoire est cute, les personnages, on s'attache super vite, on a envie d'être dans la mer et de chiller avec des poissons. Le père de Nemo, donc le poisson clown qui a disparu, part à sa recherche et fait d'étranges rencontres. C'est Personnellement, je trouve ce film-là merveilleux. Il est possible de regarder ce film-là à maintes reprises sans se tanner, et ça, je trouve ça très bien.
As-tu vu Trouver Doris, qui est comme la suite un peu de Trouver Nemo?
Oui, j'ai vu au cinéma Trouver Doris. Je l'ai apprécié, mais le classique Trouver Nemo, à mon avis. Le deuxième est un peu comme le rappel du premier. Mm-hmm. Bon, le premier était meilleur. Alors, voilà. En deuxième position, Les 12 travaux d'Astérix. Donc, pour moi, l'univers d'Astérix a bercé mon enfance et mon adolescence. J'ai presque même appris à aimer à lire avec les bandes dessinées de Goscinny et Uderzo. Et pour moi, le film Les 12 travaux d'Astérix, qui a originalement été fait en film et non pas en BD, c'est le chef-d'œuvre. Et il est toujours aussi bon, toujours aussi drôle. Après si longtemps, là, je serais encore capable de le regarder à chaque année. D'ailleurs, c'était dans les ciné-cadeaux pour ceux qui écoutaient Télé-Québec ou Radio-Québec, si vous êtes encore plus vieux. Donc, l'histoire, c'est simple. Jules César fait un pari avec les irréductibles Gaulois. Et si Astérix et Obélix réussissent les 12 épreuves qu'il leur propose, il considérera qu'ils sont des dieux et Rome se soumettra. Sinon, le village gaulois se rendra aux Romains. Alors, évidemment, une adaptation de l'histoire d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule. Je connais les répliques par cœur de ce film-là. Je les plug souvent dans des conversations parce que c'est définitivement un classique. Et quand on a affaire à la bureaucratie, on se souvient de La maison qui rend fou. Vous avez pas vu ce film-là?
Ben oui, mais je pense qu'il a aimé un film, puis il a aimé un film, Jim.
Ça veut dire quoi, ça?
Qu'on va te débrancher de ciné-cadeau pour cette année, je pense.
Bon, enfin, de toute façon, l'antenne rentre pas. En première position, le film, selon moi, qui mérite le plus une ovation, et que probablement vous avez jamais vu, L'illusionniste, dessin animé presque muet, production franco-britannique réalisée par Sylvain Chomet, qui nous a donné Les Triplettes de Belleville. On est visuellement dans le même type d'animation. Le film est presque la biographie métaphorique du réalisateur français Jacques Tati, homme très particulier que j'adore et qui nous a donné, entre autres, Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle, Les Jours de Fête. C'est l'histoire d'un illusionniste, un magicien finalement, qui est pas né à la bonne époque parce qu'il est victime du manque d'intérêt du public pour son art. C'est la fin des années 50, c'est le début de l'ère du rock'n'roll et on vit la réalité troublante du showbiz à travers la pauvreté, les vices, etc. Le personnage principal a vraiment les allures de Jacques Tati lui-même. Il se retrouve dans une auberge en Écosse où il rencontre une jeune fille qui pense que c'est un vrai magicien. Imaginez-vous donc. Et c'est beau, c'est triste, c'est touchant. C'est le meilleur film d'animation non japonais que j'ai vu, malgré la critique d'un des membres de la famille de Jacques Tati.
Dirais-tu que c'est meilleur que Inside Out?
C'est pas du tout dans le même ton. Inside Out a vraiment plus une vocation éducative dans son approche. Ce film-là est plus biographique, si on veut. Mais c'est vraiment très bon. Faut prendre le temps de regarder. C'est un film qui est assez dur à voir.
Dans quel sens dur à voir?
Il y a une certaine lourdeur dans ce film-là parce que c'est ça, c'est une réalité un peu triste, tu as un peu pitié du personnage, t'es triste pour lui, en même temps il fait ce qu'il peut, puis c'est ça, c'est la vie. Et voilà, donc c'était le top 3! C'est le moment de parler des séries télé. Et Mélina, cette semaine, tu nous parles d'une série québécoise particulièrement intense.
Oui, alors c'est une mini-série, ça s'appelle Plan B. Ça a été réalisé par Jean-François Asselin, qu'on connaît pour Les Pêcheurs, François en série. C'est scénarisé par lui-même, Jean-François Asselin et Jacques Drolet. Et ça met en scène Louis Morissette. Louis Morissette, si vous ne le savez pas, c'est le conjoint de Véronique Cloutier. Ils ont fait ensemble...
C'est un humoriste.
C'est un humoriste, oui. Il était aussi dans Les Mecs comiques, à la base.
C'est un producteur excessivement prolifique.
Aussi, c'est voilà. Et alors, Louis Morissette, Magali Lépine-Blondeau, Émile Proulx-Cloutier, Julie Le Breton, Fabien Cloutier, donc...
Tout du monde qu'on connaît pas, là, tu sais.
Non, non, une grosse brochette, au ouais, contraire, c'est ça.
C'est ça.
Une grosse brochette québécoise d'acteurs qui sont tous excellents dans cette série-là. Donc, le format, en fait, c'est une mini-série. Donc, c'est seulement 6 épisodes de 45 minutes. Ça a été diffusé à Série Plus. Ça a commencé le 4 mai dernier. Donc,
c'est quand même récent, là, c'est ça.
C'est très récent. Et pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce que c'est vraiment, selon moi, la meilleure série, des meilleures productions québécoises des dernières années. Je dirais jusqu'aux Invincibles, qui était aussi...
Je seconde, oui.
Voilà. Donc, avant d'en parler plus, on va aller écouter la bande-annonce.
Philippe Girard?
Oui.
Hey, OK!
disais que je suis déjà revenu dans le passé. Puis que j'ai changé le cours des choses.
Ça va?
On est quelle date, là?
Le 18? Regarde, t'es bien bizarre.
J'ai déjà vécu ce qui se passe.
Arrête.
J'aurais juste aimé que tu me fasses confiance.
Ah, c'est tellement bon, j'ai goût de le revoir.
Oui, mais en fait, moi, je le reverrai peut-être pas tout de suite parce qu'on l'a regardé, on l'a binge-watché, comme on dit.
Oui, oui, oui.
En une fin de semaine. Et vraiment, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter, je crois.
Oui, c'est quand même assez troublant là, comme série. Là.
C'est très troublant. Donc, ça se déroule de nos jours au Québec, évidemment. On suit le personnage principal là, qui s'appelle Philippe Girard. C'est un avocat qui vient de s'ouvrir un cabinet d'avocat avec son beau-frère. Sa conjointe s'appelle Evelyne, c'est une musicienne, et elle décide de le quitter après 6 ans de vie commune. Donc, dans son désespoir, il cherche dans le bottin et il tombe sur une annonce d'une compagnie qui s'appelle Plan B, ouais. Voilà, qui permet de retourner dans le passé afin de changer le cours des événements. Donc, c'est ça un peu le contexte. Il va se servir de ce service-là à 3 ou 4 reprises dans la série. Et chaque fois, de changer des choses dans le passé, ça l'affecte son présent.
Oui, effectivement.
Donc, c'est un concept qui est, selon moi, super original. Ça ressemble à rien qui a été fait dans le passé, même si c'est un thème que déjà on a déjà abordé.
Ouais, c'est pas la première fois qu'on parle de voyage dans le temps.
Exactement.
Mais là, c'est vraiment autre chose. Là.
C'est vraiment autre chose. C'est vraiment abordé d'une toute nouvelle façon. Puis, je pense qu'un peu le message derrière ça, c'est oui, tu peux retourner dans le passé, changer des choses, mais tant que tu changes pas toi-même, tu vas répéter les mêmes choses d'une façon différente, mais ça va revenir à ça.
Ouais. Ou ce qui est impossible, peu importe ce que tu fais, demeure impossible.
Exactement. Philippe, c'est un gars qui est vraiment... qui veut vraiment faire pour le mieux. Il veut être le meilleur pour sa conjointe. Il veut que tout soit parfait,
ouais,
en fait.
La business marche bien.
Exactement. Donc, il va même tomber un peu, à un moment donné, un peu contrôlant, on dirait. Mais ça reste dans une super bonne intention. Donc, c'est un personnage qu'on finit par s'identifier parce que il est très humain, dans le sens qu'il veut faire le mieux... Mais c'est pas le résultat qu'il y a. Donc, on voit qu'il est toujours un peu en combat avec lui-même. Sa conjointe, Evelyne, aussi, c'est la femme qui a renoncé à sa carrière, à elle, par amour pour son conjoint, décide d'aller faire un cours de technicienne juridique pour l'aider dans sa business. Donc, elle va vraiment le mettre à l'avant-plan, puis elle se retrouve 6 ans après, elle est pas heureuse là-dedans parce qu'elle a pas suivi, elle, ses propres rêves. Donc, c'est tous des personnages. Le beau-frère, en fait.
Oui.
Le beau-frère, un autre avocat qui à quel point il est un personnage odieux, mais tu le comprends en même temps.
Oui.
Donc, c'est des personnages très forts, très touchants, très troublants. Je pense que n'importe qui peut s'identifier à ces personnages-là. Puis, une chose, moi, qui m'a beaucoup marquée dans cette série-là, que j'ai vraiment envie de vous parler, c'est la trame sonore. La trame sonore, c'est une composition originale de Mathieu Vanasse et elle est tout simplement excellente et parfaite. Elle colle vraiment au récit puis elle vient même rajouter au niveau de l'intensité.
Oui.
C'est
beaucoup
vraiment
plus. Beaucoup de violoncelle, ça ramène l'idée que j'ai oublié son nom.
Evelyne
est violoncelliste.
Exactement,
donc il y a quelque chose avec ça, là, tu sais.
C'est très travaillé, puis c'est un projet, semble-t-il, que Louis Morissette porte depuis très longtemps, qui veut réaliser ça. Ça a été super difficile pour eux de trouver un diffuseur. TVA, Radio-Canada, Super Écran, ils ont tous refusé de diffuser le projet, principalement à cause du format, parce que 6 épisodes, bon, ouais, ça se casse mal dans une grille horaire, j'imagine. Mais malgré cela, la série, elle a rencontré un ultra grand succès. Ils sont même maintenant en négociation pour l'adapter en France et il y a 3 autres pays qui ont approché.
Ah, ça m'étonne pas, hein.
Oui, vraiment.
Le concept est tellement unique, là. C'est surprenant même qu'il n'y ait jamais rien eu comme ça avant. Là.
Exactement. Puis, alors que Série Plus avait dit qu'ils ne feraient pas de saison 2 parce qu'ils ont décidé d'arrêter de produire du contenu québécois, la saison 2 a été annoncée et va être sur les ondes de Radio-Canada. Donc, on va garder le concept, mais les personnages seront tous différents, donc on retrouvera pas Louis Morissette ni Magali Lépine Blondeau.
Magali Lépine Blondin, non.
Non, non, mais je trouve ça intéressant par exemple de refaire une série avec le même concept mais pas d'autres, mais d'autres personnages. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider une série à grandir comme ça. Vraiment. Puis en plus, je vais avoir la chance de la voir sur Tout TV.
Oui, exactement. J'espère qu'elle sera aussi bonne que la saison 1. Là, ce qui est dit, c'est qu'on va suivre plutôt une femme dans la cinquantaine, donc ils vont s'intéresser plus à un univers féminin que masculin. Mais bon, si c'est la même équipe qui est derrière ça, ça risque d'être particulièrement bon. Mais
j'ai aucun doute que je vais regarder cette
chapeau
série.
Chapeau à Louis Morissette, que je n'avais jamais vu comme acteur, que je connaissais plus comme humoriste et animateur, les bye-bye, on s'entend?
Oui.
Mais waouh!
Ah non, mais il est d'une crédibilité. Là, j'ai rarement vu un acteur aussi bien joué que
vraiment.
Ça.
Vraiment.
Et c'est pas un acteur.
C'est exactement.
C'est quelque chose, là.
Et Magali Lépine Blondeau aussi, qui est tellement troublante.
Ah. J'en rêve presque.
Une note sur 10, guys?
14. Sérieusement.
Moi, c'est rare que je dirais ça, mais je peux dire... si on touche pas le 10 sur 10, on est dans le 9 point quelque chose. Là.
Mm-hmm.
C'est,
9.999. Ah, ouais. Ah oui.
C'est quelque chose, franchement.
Bon,
c'est série, devoir, à mon avis, une série parfaite.
Je vais peut-être devoir revenir sur ma position de ne jamais écouter de série télé et de faire...
Je l'espère.
C'est que 6 épisodes, c'est moins long qu'une trilogie.
C'est moins long que Le Seigneur des Anneaux au complet, version
voilà.
longue.
Voilà.
C'est sûr.
Ça vaut vraiment la peine, selon moi, ce qui a été meilleur de produit au Québec.
Depuis un certain temps.
Depuis, oui, très longtemps. Voilà.
Merci beaucoup, Mélina. C'était très intéressant. Et oh oui, d'ailleurs, si les gens veulent regarder la série, c'est disponible sur Illico, je crois.
Je crois que oui, c'est disponible sur demande, sur Internet, probablement. Peut-être pas encore pour très longtemps, mais nous, on l'avait vu voilà, sur Illico. Voilà.
Eh bien, merci, Mélina. Rapidement, pour cette semaine, qu'est-ce qui s'en vient en Blu-ray et DVD? Les Proies, un drame américain qui se passe pendant la guerre civile américaine. Une jeune fille tombe sur un soldat blessé et décide de lui cacher chez elle, avec entre autres Colin Farrell et Nicole Kidman.
Ça sent comme la version plate de Wonder Woman.
Mais il y a l'air mieux côté que tu pourrais le croire. Sinon, Bon Cop, Bad Cop 2. Et oui, déjà en DVD, Patrick Huard et... Oui, ça n'a pas été long, hein? Patrick Huard et Colm Feore se retrouvent dans leur rôle de policier québécois frivole et ontarien straight. Et pour lui, maintenant, Baby Driver, déjà aussi en DVD.
Ça vaut la peine. Tout le monde devrait regarder ce film-là. Allez le louer en Blu-ray cette semaine.
Merveilleux. Ou Baby, le chauffeur en français. Assez bien coté avec Ansel Elgort, Kevin Spacey et Jamie Foxx, entre autres. Et finalement, si vous aimez Will Ferrell, il y a toujours le film La Maison, avec 17% sur Rotten Tomatoes, qui est disponible en DVD cette semaine. Et Louis, ton côté, qu'est-ce que l'avenir projette sous les projecteurs?
Que l'avenir projette sur les projecteurs? L'avenir est rendu projectionniste à la Maison du cinéma?
Ben, je sais pas, à toi de me dire.
C'est une question intéressante. Cette semaine, au cinéma, on a Stronger, version française Plus Fort, je crois, qui est un drame biographique, une histoire vraie d'un survivant des attentats de Boston, tiré d'un livre du même nom. On a entre autres Jake Gyllenhaal comme personnage principal. On a également un truc qui s'appelle L'étranger, version originale de Foreigner. C'est un thriller d'action basé sur le roman de Chinaman. C'est une coproduction. Ah oui, c'est ça. C'est une coproduction sino-britannique où Jackie Chan et Pierce Brosnan se donnent la réplique. Oui, on a vu la bande-annonce ensemble.
Oui, ça l'a
C'est ça. C'est Jackie Chan qui décide de se venger suite à un attentat terroriste qui fait comme victime, entre autres, sa jeune fille.
Oui.
Et ça a l'air. C'est Jackie Chan. Pas
sérieux,
drôle,
ça,
mais sérieux et vraiment
ça va
avec,
changement.
Avec la rage dans les yeux.
À voir, définitivement.
C'est probablement ce que je vais aller voir cette semaine. On a également Paris pieds nus, qui serait sorti en fait le 8 mars dernier, mais qui arrive sur les écrans canadiens seulement cette semaine. C'est une comédie franco-belge. C'est une Canadienne qui débarque à Paris pour aider sa tante, qui perd son sac, qui est retrouvée par un sans-abri. Un sans-abri qui serait charmant, mais collant, qui s'en mêle. Bref, pas mon genre de film. Également, 120 battements par minute. Cette fois-ci, c'est un drame français qui parle de l'épidémie de sida en France dans les années 90. Oui. Mm-hmm. On suit un jeune militant qui commence à rentrer dans le milieu et qui se fait effrayé par le radicalisme de certains de ses confrères. Mm-hmm. On a également un film québécois qui arrive sur nos écrans, Marc-André Lavoie, qui dirige Innocent. C'est le même type qui a fait Bluff, Il n'y en aura pas de facile et Hot Dog. Cette fois-ci, c'est une comédie en mettant en vedette Emmanuel Bilodeau, Pascal Bussière et Maë Paiement. À propos d'un type qui se ramasse en prison.
C'est la bande-annonce que le gars, il se fait slapper dans la face au ralenti.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est exactement ça.
Ah oui, oui.
Ça avait l'air spécial.
Bizarre, ça. Ouais.
Ben, j'entendais des entrevues aujourd'hui avec Emmanuel Bilodeau, où est-ce qu'il parlait que c'était un film qui était parti sur une idée de napkin de bar avec Marc-André Lavoie, puis qu'il n'y avait pas de financement, qu'ils ont commencé ça un peu sur des tournages de 3 jours avec des équipes minimalistes, puis finalement, ça a explosé en projet de film complet.
Wow. Ah ben, on va aller le voir.
Sinon, comme dernière sortie cette semaine, on a Bonne Fête Encore, version originale Happy Death Day, qui est un film d'horreur slasher dirigé par Christopher Landon, connu entre autres pour Disturbia en 2007. C'est une jeune femme se réveille le matin de sa fête encore et encore et encore. Si vous êtes allé au cinéma, la compagnie de production met les pubs partout et c'est vraiment très joli. Là, ça rappelle Groundhog Day.
Histoire de peur même à la limite parce que le masque,
ben oui mais il y a aussi le film avec Tom Cruise
Top Gun?
Non
excuse-moi
pas Top Gun non il y avait un film avec Tom Cruise comme ça où ce qui revenait dans le passé tout le temps Edge of Tomorrow.
Ah oui.
Ça fait penser à un mélange de Scream puis Groundhog Day ou Scream puis The Edge of Tomorrow.
Oui, là tu revis ou le gars du câble ou c'est tout ce
c'est ça.
Affaire-là. Ouais.
C'est très cute, ça a l'air un peu plus léger, mais quand même très gore pour octobre. Et ils font beaucoup de la promotion sur le fait que ça sort un vendredi 13.
Oh!
C'est ça! Aussi, je l'ai mentionné la semaine dernière suite à une erreur de production. Gabriel Lamontagne ne sortait pas cette semaine, mais bien la semaine prochaine.
Tout à fait, à Sherbrooke du moins.
Yes.
Oui, film que je vais aller voir probablement cette semaine et je vous en donnerai des nouvelles la semaine prochaine.
Excellent.
Donc, c'est déjà fini pour cette émission de Ciné Brunch. Merci Louis, merci Mélina.
Merci.
Bonne semaine.
On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine.